Philippe Reynard, bonjour. Alors, très heureux de vous retrouver à Cannes, d'autant plus. Vous êtes venu ici pour la première fois en 80. 45 ans, c'est énorme quand même, un bel anniversaire.
Oui, oui, et j'y suis venu chaque année, c'est ça, 45 ans d'affilée. Même l'année du Covid, il y avait eu une sorte de faux festival de Cannes en juillet, et je me suis dit que je devais y être, sinon j'allais rompre la série.
Comment considérez-vous le changement de ce festival qui est quand même plus gros au monde finalement?
Oui, aujourd'hui c'est incontestable, c'est devenu la plus grande manifestation. C'est d'ailleurs, en termes d'accréditation presse, le deuxième événement mondial après les Jeux Olympiques. Hein. C'est quand même assez impressionnant. C'est assez impressionnant parce que finalement, on parle quand même que de cinéma ou à peu près. Grosse évolution parce qu'effectivement, quand je suis venu en 80, et je pense que vous avez suivi de près, hein, 82, voilà. C'était encore ce qu'on appelle maintenant l'ancien palais.
Et le bunker.
Et voilà. Et on a assisté à la naissance du bunker qui maintenant est en train de devenir un vieux monsieur, mais aussi un nouveau palais. Alors on parle d'ailleurs de cross-restauration déjà nécessaire. Donc, c'est dire si le temps passe. Mais non, c'est surtout, l'ambiance qui a changé du tout au tout. On était quand même encore sur un festival, je vais pas dire familial, mais pas loin, où on pouvait croiser des réalisateurs au restaurant, rencontrer des gens sur la croisette, hein, qui vous arrêtaient. Moi, j'ai croisé comme ça Sylvester Stallone un matin sur la croisette, qui s'est arrêté pour me dire bonjour. Oh, c'était merveilleux. Ça, c'est fini. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a une telle foule que tous les contacts sont... à prendre par rendez-vous, quand on y arrive. Et donc voilà, ce 45e festival, pour moi qui suis aujourd'hui un jeune retraité, sera aussi mon dernier. Je trouve que c'est un beau chiffre rond pour arrêter, parce que je n'y trouve plus la satisfaction que je pouvais y avoir pendant des années, ou bien pendant les années où j'avais une raison professionnelle d'être là. Ici, c'est juste pour plaisir, et le plaisir s'estompe un peu.
Alors, votre autre actualité, c'est un bouquin qui est sorti aux éditions Montparnasse, Le regard de l'homme aux lunettes blanches, avec en sous-titre Chronique de l'ère du temps cinématographique. C'est quoi un bilan?
C'est, alors, d'abord, très factuellement, ce sont 2 ans de chronique, publiées au rythme quinzomadaire, comme on dit, dans un magazine professionnel français, Écran Total. Donc un éditeur a cru bon de regrouper, donc pourquoi pas. Mais effectivement, en relisant moi-même avant publication, je me rends compte que oui, que c'est un peu une manière de respirer l'air du temps, de ce que devient le cinéma, de ces nouveaux enjeux, parce que franchement, en quelques années, avec l'arrivée des plateformes, avec la crise sanitaire, la donne a vraiment changé. Et donc le cinéma des années 2000-2010 et le cinéma d'aujourd'hui n'ont plus grand-chose à voir. Et donc, si on peut parler de bilan, c'est un bilan, mais sur les années récentes. C'est pas, je raconte pas toute ma vie.
Alors bon, chronologie, étymologie, c'est chronos, le temps. Donc on imagine quand même un ancrage dans une actualité. Ça doit pas être évident éventuellement parce que certains articles sont vraiment très pointus et ancrés dans cette actualité et d'autres sont plus intemporels.
Oui, oui.
Le choix de dans votre publication.
Chaque fois que je trouvais que c'était bien écrit, on se qu'on a publié.
Pas être concerné.
Non mais je plague à peine mais. J'ai adoré faire ces chroniques tous les 15 jours parce que c'est un vrai exercice. Parce qu'effectivement, il faut s'accrocher aux faits marquants de la quinzaine. Et c'est des textes courts dans lesquels je me suis toujours appliqué à ce qui est un titre un peu accrocheur et puis une pointe à la fin, une petite pirouette. Et c'est un genre à part, la chronique. C'est pas du roman, c'est pas de la nouvelle, c'est de la chronique et ouais, je trouve que je ne suis pas trop mal débrouillé, si je peux dire moi-même.
Alors, Écran Total, c'est accru sa visibilité, public cible a un peu changé, faut le dire, c'est grâce à vous, ça, non?
Bien sûr. Non, mais disons que Je pense que cette chronique a bien fonctionné. Elle avait ses lecteurs. D'ailleurs, j'en ai eu la preuve parce que, un peu naïvement, après chaque publication, au début, je faisais une capture d'écran du journal et je republiais sur les réseaux sociaux. Et le rédacteur en chef m'a appelé en disant, écoute, c'est super sympa, mais, en fait, corniger ta chronique, c'est un argument pour s'abonner, donc arrête un peu de les publier comme ça, au gré du vent.
Les sujets abordés, fatalement, Cannes a une belle place, oui, je peux le dire, notamment avec les chroniques quotidiennes de 2024, donc ça fait 10 plus une le lendemain de la veille. Donc, grosso modo, ça fait un cinquième de 2024 par rapport aux 50 nés à la grosse touche.
Mais c'est-à-dire qu'en 2023, le magazine l'avait prévenu que les trois hors-série cannois, il les bouclait très très tôt pour des raisons techniques qui devaient être prêts absolument pour Cannes. Et donc, j'étais un peu désespéré. Je me disais, oui, mais alors, je vais pas pouvoir jouer le jeu de la chose dont tout le monde parle. Enfin, je risque de tomber à côté. Et là, j'avais trouvé une manière de m'en sortir, c'est qu'en 2023, j'avais publié donc trois papiers, hein, par hors-série Cannes, en racontant mes souvenirs de Cannes. Donc, c'était plutôt là, on était vraiment dans la nostalgie, les grandes années, etc. Et puis, l'année suivante, en 2024, je me dis, je peux pas refaire le coup. Hein. Et donc, comme Écran Total publie tous les jours une lettre quotidienne, hein, qui est distribuée par Internet, j'ai relevé le défi de dire, mais je vais faire un billet quotidien. Et je me suis un peu mordu les gants, dit, mais pas que vivre à Cannes, voir ces trois films par jour, rencontrer les gens qu'on doit rencontrer, faire les dîners ou les soupers, et puis rentrer écrire son papier qui doit être là à 7h du matin, c'est un peu rock'n'roll. Et d'ailleurs, j'ai remarqué une chose que je mets dans le petit épilogue de ces 10 billets cannois, c'est que plus les jours avançaient, moi je faisais court. Et ça m'a rappelé une lettre que Madame de Sévigné écrivait à sa fille, et elle lui dit à un moment, ma chère fille, je suis désolé, j'étais un peu longue, mais je n'avais pas le temps de faire court.
Alors aussi, tant qu'on y est dans Cannes, vous parlez de Rosetta quand même.
Ah oui.
Vous parlez des Dardennes, vous parlez du retour d'Emily.
Oui. Oui, alors, ben oui.
Grand moment d'émotion quand même.
Oui, très fort, parce que c'est vrai que j'étais là en 99 pour les amis français, en 99 pour les amis Carolo, quand Rosetta a été projetée et quand il y a eu la Palme d'Or. Et c'est là que j'ai fait la connaissance d'Émilie, et qui était toute jeune fille, elle avait 17-18 ans, quoi. Et j'avoue que j'avais rencontré juste avant la projection, j'avais vraiment peur pour elle, parce que Cannes, c'est merveilleux, c'est le Strass, c'est l'état amour, mais c'est aussi une machine à broyer, hein. Si vous êtes bien solide, et je me disais, si le film est mal reçu, ça peut être très très dur pour une toute jeune fille comme ça. Et puis finalement, c'est juste au contraire qui s'est passé. Elle a été haussée au rang princesse tout de suite. Et puis voilà, il y a une amitié qui est née là, à ce moment-là, avec ses parents, hein. Parce que le père, d'Emilie.
Et puis, sur vous, finalement.
Oui, il m'avait téléphoné au moment du tournage, donc, quelques mois plus tôt, me disant, je sais pas comment il a eu mon numéro de téléphone, il m'a dit, dites, monsieur cinéma, les Dardennes, c'est des gens sérieux, parce que, ils vont avoir ma fille, là, pendant 3 mois. S'il y en a un qui leur touche. Et j'avais dit, non, mais t'es là. Je ne pouvais pas être plus rassuré qu'avec Luc et Jean-Pierre sont les gens les plus sérieux de la Terre. Enfin, voilà. Mais donc, du coup, c'était comique. Il y avait un lien qui s'était créé avec le père d'Émilie, et puis sa maman, et puis sa sœur, Audrey. Et puis, voilà. Et fatalement, avec Émilie, on s'est recroisés d'occasion en occasion. Et puis, c'est vrai que la grande émotion, c'était il y a un an, quand, alors qu'elle était en rémission de son cancer, comme c'était les 25 ans de Rosetta, le festival l'avait invitée pour fêter les 25 ans de Rosetta. Et elle a accepté alors qu'elle avait des cheveux 1 cm parce qu'elle sortait de la chimio. Elle était très fatiguée, enfin bon, voilà. Mais elle était là.
Très heureuse d'y être aussi.
Très heureuse d'y être et avec un rayonnement. Mmh. Et je me souviens que je lui ai consacré un des billets que j'avais appelé Emily Too, comme le mouvement MeToo, parce que je disais, en fait, Emily, en étant là et en étant souriante comme elle est, c'est aussi une forme d'espoir pour toutes les femmes qui sont touchées par le cancer, quoi. C'est, elles peuvent se dire, ah ben, Emily Too, quoi. Elle a le cancer et elle est là, elle sourit, elle va continuer à tourner. Donc, voilà, la maladie, on a décidé autrement. Donc, ça, c'est très triste. Mais j'étais touché que le maître de cérémonie à l'ouverture du festival lui dédie, non seulement la cérémonie, mais je crois que le festival, enfin, donc, mais c'était une enfant de Cannes, hein. D'ailleurs, moi, je la taquinais toujours, je l'appelais Émilie de Cannes.
Alors, on parlait d'Ardenne, mais aussi, on parle d'Alban Le Noir. Quand même marrant avec René Coq. Qu'est-ce qu'il vient faire là-bas, Alban?
Alors ça, je dois dire que c'est moi-même qui étais le premier surpris parce que je déjeune un jour avec un ami de l'Observatoire audio, non, de Eurimage. Et il me dit, tu sais quel est le comédien français le plus vu au monde? Moi, si je suppose c'est Depardieu ou, enfin, je cherche un peu. Il me dit, tu es pas du tout, c'est Alban Le Noir. Et j'ai jamais entendu parler d'Alban Le Noir. Et en fait, Alban Le Noir.
Du coup, il a mérité une tournique.
Ben oui, c'est un comédien, qui a démarré dans la comédie, un peu amusante. Et puis, qui s'est fait des gros muscles, qui a tourné des films d'action. Produit par Netflix ou pour Netflix et qui sont effectivement les champions, c'est les films français les plus vus, c'est les films avec Alban Le Noir. Et donc j'avais fait une chronique pour me poser la question de ce type que je ne connaissais pas, qui était le comédien le plus vu. J'avais dit, que peut-on voir dans Le Noir?
Alors justement à ce propos, il y a toujours beaucoup d'humour dans mon chronique. C'est votre marque de fabrique, non?
Ben oui, c'est, je trouve que vous savez, par les temps qui courent, je veux dire, on a toutes les raisons de désespérer, hein, dans ce monde, pour l'instant, il y a des guerres de tous les côtés, enfin, il y a un
président
américain, bah oui, c'est, enfin, chérie, franchement, on se demande un peu où on va, là. Et je trouve que quand on parle de cinéma, comme c'est mon métier, ou c'était mon métier, ça le reste encore, on peut pas se prendre au sérieux, enfin, je veux dire, les gens qui font un drame parce que, tel film est un peu raté. Enfin, ça va, les gars. Je dis, il y a ça mordant. Donc, je préfère sourire et ça passe mieux, d'ailleurs.
Outre le cinéma belge que vous avez toujours défendu, notamment en tant que directeur de Voix l'Image, il y a le cinéma européen aussi pour lequel vous êtes impliqué.
Oui. Ben oui.
Où en est-on et comment évolue-t-il?
Alors.
Vous avez fait un rapport quand même là.
Oui. Je viens encore passer, faire une grande étude. Européenne, enfin, sur le thème. Ben, c'est une situation un peu paradoxale. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de jeunes qui ont envie de faire du cinéma et qui arrivent parce que, avec la digitalisation des outils, finalement, c'est beaucoup plus simple de faire un film aujourd'hui qu'hier, hein. Je veux dire, quand on est en 35 mm, ben, il fallait trouver d'abord des capitaux. Enfin, c'était ici avec un bon téléphone portable et un bon programme de montage sur son ordinateur, il y a moyen de faire un film. Après, donc ça c'est le côté positif, c'est que la relève est assurée parce qu'il y a beaucoup de talent. Je vois beaucoup de talent, y compris sur les gens qui sont que diffusés par les réseaux sociaux. De temps en temps, on voit des merveilles, des gens qui ont tout compris. Mais par contre, du côté de la diffusion, là, on est vraiment de plus en plus dans un cul-de-sac et je crains qu'on arrive au bout du cul-de-sac bientôt. C'est-à-dire que il y a trop de films, il y a pas moins d'écrans, Dieu merci. On a cru qu'avec la pandémie, les cinémas allaient fermer, c'est pas le cas. Mais par contre, ils savent pas absorber le nombre de films qui sont produits. On produit en Europe plus de films qu'aux États-Unis. Ce qui est quand même paradoxal, d'autant que les films américains qui ont un territoire unique sur lequel ils s'amortissent, après ils sortent la plupart, hein, en tout cas sur le reste du monde, moitié, ils sortent sur le reste du monde, et comme souvent c'est des blockbusters, ben, ils occupent le terrain. Il est pas rare de voir dans les multiplexes un film américain qui occupe 4 ou 5 écrans en même temps. Mais du coup, les 300 films européens plus font la queue derrière. Donc on a de plus en plus de films qui vont directement sur les plateformes. Mais c'est pas la solution non plus, parce que à un moment on s'est illusionné, on s'est dit bah oui, mais il y a des plateformes. Mais pour être vu sur une plateforme, il faut que les gens sachent que vous existez. Si vous n'êtes pas sorti en salle, ça, il y a des études qui le montrent très clairement, il n'y a pas le buzz. Les films qui marchent bien sur les plateformes, c'est souvent les films après qui ont une campagne. Alors les gens n'ont pas forcément été les voir, mais ils ont vu l'abribus ou ils ont vu le flanc de tram et puis ils disent « Ah oui, ça a l'air bien, ça a l'air bien, ils n'en savent rien », mais ils ont vu la publicité ou ils ont vu la bande-annonce et voilà. Mais non, je pense, et c'est un discours qui est vraiment pas très populaire, donc je dis qu'à vous, hein, je pense qu'il faudrait qu'on produise moins de films, mais qu'on mette plus de moyens dans chacun de ces films. On le voit quand même quand certains producteurs courageux en France décident de tout à coup faire le Comte de Monte Cristo avec un budget qui est un budget d'un petit film américain. Ben ça marche parce que les gens ont envie aussi d'avoir du spectacle. S'ils sortent de chez eux, ils prennent la voiture, ils payent le parking, ils payent la babysitter pour garder les enfants, ils payent leur place, les pop-corn, ils veulent en avoir pour leur argent. Et là, on peut pas le reprocher de mettre en concurrence un film à 100 millions de dollars avec des effets spéciaux dans tous les coins et un petit film français où deux types discutent dans une chambre. Ben voilà, il y a une sorte de
grand effet
de loi du marché qui joue. Et d'ailleurs, c'est une autre des suggestions qu'on aborde dans l'étude européenne dont vous parliez, c'est de se reposer la question si vraiment le prix unique des places reste une bonne idée. Parce que, en fait, on est la seule industrie où tous les films coûtent le même prix. Alors non, si vous êtes senior ou vous avez une cabaret luxueuse, c'est moins cher. Mais sinon, je veux dire, un film de Steven Spielberg coûte le même prix qu'un film d'un jeune réalisateur français. Si vous allez dans n'importe quel magasin de chaussures, toutes les chaussures coûtent pas le même prix. Donc, peut-être qu'un jour, ce serait révolutionnaire, mais il faudrait penser à déréguler ce système de prix unique.
À l'instar de votre fils Mathieu, est-ce qu'on n'a jamais eu envie d'écrire un scénario et de le mettre en scène?
Souvent. Mais alors, je suis beaucoup moins doué que mon fils, visiblement. Il y avait une étape, hein, je veux dire. Mes parents, ils allaient un peu au cinéma, mais ils n'ont jamais rien fait d'autre pour le cinéma. Moi, j'ai beaucoup écrit sur le cinéma, et la troisième génération fait des films. J'ai quand même toujours l'une ou l'autre idée comme ça, mais je pense que...
C'est votre quatrième prix, ça.
C'est ça, ce sera après ma pension.
Alors Mathieu, justement, on en parle, mais il vient d'aller présenter son premier long au Brésil, à Fantaspoa, à Porto Alegre. C'est Discordia, avec Sophie Breyer notamment. Un film de genre.
Oui, alors il n'a pas choisi la voie la plus simple de son premier long métrage. Il avait déjà fait quelques courts métrages, donc c'est la voie traditionnelle. Et pour le premier long, il a fait un film qui relève du film fantastique ou de l'héroïque fantasy, comme on dit, mais en même temps avec des moyens belges, des petits moyens belges. Donc, j'ai adoré de lire une interview de lui dans laquelle il définissait son film en disant que c'était de l'héroïque fantasy intime. Donc, c'est le Seigneur des Anneaux à trois personnages, quoi. Mais le film est très chouette et, moi, je suis évidemment un grand fan. Mais là, c'est bien parce que il en est à son deuxième festival, il était à Casablanca. Puis il a été à Porto Alegre, c'est quand même pas la porte d'à côté. On parle maintenant d'un festival en Suède, mais je peux pas encore le dire. Et je pense que finalement en Belgique, en France, ce qui va s'organiser, c'est plutôt une sortie événementielle pour préparer sa diffusion télé, plateforme et télé traditionnelle, quoi. Voilà. Et puis il y aura le suivant, et puis le suivant. J'ai dit donc que c'était mon dernier festival de Cannes. Je ferai une exception si Mathieu est sélectionné.
Alors pour revenir à votre livre, on parle de l'homme aux lunettes blanches, mais en fait, c'est un livre qui est écrit avec un autre monsieur à lunettes qui a aussi trempé sa plume. C'est Patrice Leconde. Comment est-il arrivé là? Parce que bon, c'est vrai que ça fait longtemps que vous le côtoyez.
Oui, oui, ben, Patrice Leconte.
Et de citer d'ailleurs à propos de la disparition de Michel Blanc d'ailleurs.
Oui, 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 absolument. Ben oui, donc tout est dans tout. Non mais c'est que on a noué une amitié avec Patrice Leconte depuis quelques années. On lui avait donné un coup de main du temps où j'étais le patron de Wall'Image pour son seul dessin animé, le magasin des suicides, film auquel il tenait beaucoup parce que Patrice Leconte a commencé dans la bande dessinée avant de faire le cinéma. Et donc, il voulait faire ce film d'animation que moi j'aime vraiment beaucoup. Et donc, on s'est rencontrés à cette occasion-là. Et puis j'ai dit mais vous revenez filmer en Wallonie quand vous voulez, et il m'a pris au mot puisqu'il est revenu 3 ans plus tard tourner le film Une Promesse. Et donc voilà, on s'est vu, on s'est revu, et plus récemment il était président du jury des courts-métrages au Festival de Mons, alors que moi j'étais président du jury du 40e, et j'étais en train de mettre la dernière main au bouquin, et donc je lui ai demandé si ça l'amuserait de me faire une petite préface, et le surlendemain, j'avais son petit texte qui est vraiment très très charmant, qui m'a fait chaud au cœur.
Et les lunettes.
Et les lunettes.
Mais on sait, c'est vrai. Alors, rappelons, Le regard de l'homme aux lunettes blanches, chronique de l'ère du temps, du cinématographique, qui sortira?
Alors, il sortira le 6 juin en France et le 9 juin en Belgique, donc pratiquement simultanément. Il est déjà en précommande sur les sites des grands distributeurs. et voilà. Et j'espère, mais on s'en reparlera, mais j'espère faire quelques petits événements autour de cette sortie. En tout cas, déjà à Paris, il est prévu le 6 juin qu'on fasse des regards croisés, c'est le cas de le parler de regards, entre moi-même et Frédéric Secher, qui vient de sortir Anatomie du cinéma, et donc une grande librairie parisienne veut nous inviter à partager nos points de vue justement sur le cinéma tel qu'il devient.
Philippe, un grand merci et bon festival.
Ah oui.
Bon dernier festival.
Ah, on va en profiter, mais à fond.